France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. La gauche pose ses conditions pour entrer au gouvernement. Elle ne veut pas de macronistes, sauf peut-être pour le domaine réservé du chef de l'État, les affaires étrangères et les armées. Le Rassemblement National, lui, veut la dissolution de l'Assemblée. Je censure tout, avertit Marine Le Pen, qui estime que la plaisanterie a assez duré. Nous reviendrons largement sur la crise politique dans ce journal, où nous évoquerons également les conséquences d'une éventuelle suspension de la réforme des retraites. Je ne suis pas une icône, je suis une femme ordinaire. Les mots très forts de Gisèle Pellicot au procès en appel des viols de Mazan. Gisèle Pellicot qui s'est adressée directement au dernier accusé qui conteste sa condamnation. Aux États-Unis, James Comey plaide non coupable. L'ancien patron du FBI, limogé par Donald Trump, comparaissait aujourd'hui devant un tribunal fédéral pour entrave à une commission d'enquête parlementaire. 20h ce soir, Sébastien Lecornu prendra la parole dans le journal de France 2. Le Premier ministre démissionnaire viendra exposer les conclusions de ces ultimes négociations qu'Emmanuel Macron lui a demandé de mener. Ce sera la seule parole de l'exécutif aujourd'hui, précise l'entourage du chef de l'État. Il faudra donc encore patienter avant d'entendre le président s'exprimer sur la crise politique. Ce matin, avant de recevoir les socialistes et les écologistes, Sébastien Lecornu avait affirmé que la perspective d'une dissolution de l'Assemblée s'éloigner grâce à la volonté des partis de s'entendre sur un budget. Avec un nouvel élément depuis hier soir, la ministre démissionnaire de l'Éducation, Elisabeth Borne, qui souhaite une suspension de sa réforme des retraites. Stéphane Robert, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Olivier Faure, le patron du PS, et Marine Tondelier, la chef des écologistes, sont ressortis plutôt méfiants de leur entretien avec Sébastien Lecornu. Tous deux ont rappelé leurs exigences, un gouvernement de gauche pour sortir de la crise.
Oui, le Parti Socialiste, les écologistes, comme les communistes, ont mis sur la table du Premier ministre démissionnaire aujourd'hui leurs conditions à la non-censure d'un futur gouvernement, ainsi que l'a résumé cet après-midi le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel.
Nous avons eu une réunion avec l'ensemble des forces de gauche et écologistes hier qui appellent à la nomination d'un Premier ministre de gauche. Nous sommes alignés sur cette question et nous avons ensemble dit que ce Premier ministre mettra à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale l'abrogation de la réforme des retraites.
Le débat pour les forces de gauche, en tout cas, ne porte donc pas simplement sur la suspension de la réforme des retraites en échange d'une non-censure d'un gouvernement qui tenterait d'élaborer un budget pour l'année prochaine. Elles veulent un gouvernement de gauche qui met en œuvre une partie du programme du nouveau Front populaire. Et ce n'est pas un problème si la gauche n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale, avec seulement 191 députés sur 577, explique la chef de file des écologistes, Marine Tondelier.
Celles et ceux qui s'amusent depuis 24 heures à expliquer que si c'était un Premier ministre de gauche ou écologiste, ils le censuraient, je pense que c'est un poker menteur. C'est pas vrai. Beaucoup de députés de la gauche, du centre, ne pourraient pas censurer dans les médias. Déjà parce que la plupart d'entre eux nous ont expliqué que la chose précieuse qu'on avait entre les mains, c'était la stabilité. Ah bon ? Et donc du coup, ils vont censurer le dernier espoir avant une dissolution au bout de 15 minutes ? Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est une part de bluff. Je pense que nous aurions un gros soutien populaire. Je pense qu'on serait capable de changer la vie des Français, vraiment. Et on sait que c'est possible.
En résumé, la gauche pose un ultimatum aux macronistes. Soit il la laisse gouverner et renonce à la censurer, soit c'est elle qui votera la censure, ce qui entraînerait une nouvelle dissolution, voire à terme la démission du président de la République.
Stéphane Robert, chef du service politique de France Culture. Alors, si les socialistes et les écologistes ne veulent pas d'une dissolution, le Rassemblement National, lui, réclame un retour immédiat aux urnes. Depuis le sommet de l'élevage à Cournon, en Auvergne, Marine Le Pen s'est montrée très offensive ce matin pour obtenir de nouvelles élections législatives. Nicolas Ballu, bonsoir.
Bonsoir.
La patronne des députés RN n'avait qu'un mot à la bouche, la censure.
Oui, la chef des députés RN à l'Assemblée nationale voit certes d'un bon œil la suspension possible de la réforme des retraites. Le RN a combattu cette réforme. Alors Marine Le Pen déclare que cela va dans le bon sens. Mais ça ne change rien. Quoi qu'il se passe, ce sera la censure, rien que la censure.
Ah oui, je censure tout, moi, là, maintenant. Tout. Je censure tout. Voilà, là, maintenant, stop, la plaisanterie a assez duré, d'accord ? On fait courir les Français derrière des babales, tout ça pour gagner du temps, c'est inadmissible. Donc ça n'est pas d'ailleurs les politiques qui vont être menées. S'ils veulent supprimer, s'ils veulent suspendre, ils suspendent.
Le RN a progressivement changé de tactique et durci le ton ces derniers jours. Le gouvernement Bayrou avait bénéficié d'une relative indulgence de la part du RN avant qu'il ne le fasse tomber avec d'autres lors du vote de confiance. Puis ce fut le slogan et ce choix simplissime pour le nouveau gouvernement. Ce serait la rupture ou la censure. La rupture avec le macronisme, affirmé sur tous les tons et à longueur de journée les responsables du RN. La démission de Sébastien Lecornu, qui n'aura fait durer son gouvernement que 14 heures, a achevé de convaincre le parti d'extrême droite de l'imminence de la dissolution. Alors, il s'agit surtout de ne pas être associé à la déliquescence de la vie politique, le RN se présentant comme attaché aux institutions et aux intérêts des Français. Pour le Rassemblement national, le retour aux urnes, le Rassemblement national veut le retour aux urnes le plus rapidement possible, des élections législatives dont il se voit le grand gagnant, suspension de la réforme des retraites ou pas.
Nicolas Ballu, merci. Revenons à présent sur cette proposition d'Elisabeth Borne de suspendre sa réforme des retraites pour faciliter une sortie de crise. Olivier Faure saluait dès hier soir un réveil tardif mais positif de la part de l'ancienne première ministre. Banco lui répond Marie-Lise Léon, la chef de la CFDT, qui voit dans cette réforme des retraites une blessure démocratique extrêmement forte. Seulement voilà, cette suspension aura un coût. Le ministre démissionnaire de l'économie, Roland Lescure, parle de plusieurs centaines de millions d'euros en 2026 et des milliards en 2027. Rappelons que la réforme repousse à 64 ans l'âge de départ contre 62 ans auparavant. Marie Viennot, bonsoir.
Bonsoir.
Proposer de suspendre cette réforme, cela revient Marie à acheter le présent en hypothéquant l'avenir.
Et oui, car l'application de la réforme est progressive. Aujourd'hui, l'âge de départ, c'est 62 ans et 9 mois. En 2026, on devait passer à 63 ans. Le différentiel entre l'application de la réforme et sa suspension, c'est quelques mois de cotisation en moins et de retraite en plus. Mais plus on avance dans le temps, plus le manque à gagner des recettes qu'elle devait rapporter augmente, tout comme les retraites à verser. Voilà pourquoi la Cour des comptes avait donné des estimations d'un passage à 63 ans au lieu de 64 à l'horizon 2035, pour que l'on mesure l'effet à moyen terme. Et l'effet, c'était un surcoût de 13 milliards d'euros cette année-là. 2035, c'est loin. Voilà pourquoi proposer cette suspension peut avoir un intérêt politique. Elle ne coûte pas cher à court terme. Le problème, c'est qu'elle renvoie à plus tard la résolution du problème de fond, qui est le déséquilibre structurel de la branche vieillesse. La réforme Borne devait le stabiliser autour de 5 milliards, moins 5 milliards. Tôt ou tard, on allait donc reparler d'une nouvelle réforme des retraites. Augmenter les cotisations, l'âge de départ, réduire le montant des pensions, on connaît ces débats par cœur. Qu'ils soient tranchés au moment d'une élection, qu'elle soit présidentielle ou législative, c'est plutôt sain. Ce qui l'est moins, c'est que plus on attend, plus les déficits sociaux s'additionnent et deviennent compliqués à gérer par l'ACOSS, la Caisse de la Sécurité Sociale. Or, ce sujet-là, c'est dès cette année qu'il va falloir s'en préoccuper. Le temps acheté avec cette idée de suspension est donc beaucoup plus court qu'on ne pourrait le penser.
Marie Viennot, chef du service économie de France Culture. La crise politique, on en reparle après ce journal dans Question du soir. Si une 6e République devait naître, quelles seraient ses institutions? C'est la question que Quentin Lafay posera à ses deux invités, Benjamin Morel et Eugénie Mériot. Le procès en appel des viols de Mazan aura été marqué aujourd'hui par la prise de parole très forte de Gisèle Pellicot. Sur les 50 hommes condamnés en première instance pour l'avoir violée, un seul conteste sa condamnation, Hussam Ettine D. En décembre dernier, la cour criminelle de Vaucluse l'avait condamné à 9 ans de prison. On retrouve à la cour d'assises du Gard à Nîmes Julie Paco, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Julie, Gisèle Pellicot s'est adressée directement à l'accusé après avoir subi les questions insistantes de la défense.
Mes avocats m'avaient prévenu que je pouvais ne pas venir. Début de Gisèle Pellicot, droite et ancrée face à la barre, chemisier blanc, pantalon noir. D'une voix claire et déterminée, elle regrette que l'accusé n'ait fait aucune introspection sur lui-même depuis un an. Or, aujourd'hui, face aux vidéos, je l'ai encore vu se délecter. Il n'a pas baissé les yeux une seconde, constate-t-elle. Vous n'avez absolument pas compris ce qu'est un viol, lance Gisèle Pellicot à l'adresse de l'accusé. À quel moment allez-vous reconnaître que c'est un crime? À quel moment je vous ai donné mon consentement, monsieur, insiste-t-elle. souffle-t-elle ? Jamais. Face à son violeur, qui s'est dit plutôt également victime de Dominique Pellicot, « J'ai honte pour vous », rétorque-t-elle. « Il n'y a qu'une seule victime dans cette salle, c'est moi. Assumez vos actes et arrêtez de vous cacher derrière votre lâcheté, tempête Gisèle Pellicot, avant de se reprendre. Grâce à cette vidéo, j'ai l'attestation de la vérité, mais je me mets à la place des victimes qui, elles, ne pourront jamais se défendre et qui seront toujours humiliées dans cette salle. »
Cet accusé, Hussam Ettindé, qui est dans le déni, et le président de la cour d'assises, Julie, n'a pas vraiment arrangé les choses en posant des questions quelque peu choquantes.
Oui, car ce matin, malgré la diffusion de 14 vidéos montrant des viols commis par l'accusé sur Gisèle Pellicot, totalement inerte et ronflante, ce dernier s'est entêté et gardé la même ligne de défense. Il a été manipulé par Dominique Pellicot, il n'a jamais voulu violer cette femme qu'il respecte, affirmant avoir reçu le consentement de son mari et allant même jusqu'à nier le fait que Gisèle Pellicot ait été victime de viol, provoquant une vive désapprobation dans la salle, osant alors affirmer que lui aussi a été violé. Un accusé plongé donc dans le déni que le président de la cour a bien tenté de bousculer en lui posant des questions sur ses connaissances, des positions sexuelles, sur son excitation ou encore la vigueur de son érection lors d'un interrogatoire aussi sidérant de médiocrité qu'en première instance et dont l'issue ne semble pas avoir amorcé les prémices d'une prise de conscience chez le mis en cause.
Julie Pacaud en direct de la cour d'assises du Gard anime avec Laurent Macchietti pour les moyens techniques. Le verdict dans ce procès en appel des viols de Mazan sera rendu normalement demain dans la journée. Lennart Monterlos est en route vers la France ce soir. Le jeune cycliste franco-allemand avait été arrêté en juin dernier en Iran alors qu'il traversait le pays à vélo. Après l'avoir accusé d'être un espion, le régime des Mollahs l'a finalement acquitté la semaine dernière. Ce soir, le ministre démissionnaire des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot se réjouit de cette libération. Je n'oublie pas Cécile Kohler et Jacques Paris, dont nous exigeons la libération immédiate, a ajouté le ministre à propos des deux Français détenus en Iran depuis 3 ans et demi. Il est l'une des nombreuses bêtes noires de Donald Trump. L'ancien directeur du FBI, James Comey, comparaissait aujourd'hui devant le tribunal fédéral d'Alexandria, dans la banlieue de Washington. Le mois dernier, la justice américaine l'a inculpé pour entrave à une commission d'enquête parlementaire et fausse déclaration au Congrès. Lors de son premier mandat à la Maison-Blanche, Donald Trump avait limogé James Comey, alors que sous sa direction, le FBI enquêtait sur d'éventuelles ingérences russes dans la campagne présidentielle de 2016. James Comey qui a plaidé non coupable tout à l'heure. Les précisions depuis New York de Loïc Loury.
Un acte d'accusation vague et rachitique et un témoin central déjà problématique selon la chaîne ABC. Il en faudra sans doute plus, n'en déplaise à Donald Trump, pour enterrer James Comey. Face à la faiblesse du dossier, un procureur avait fini par jeter l'éponge le mois dernier avant que l'affaire, sous la pression du président, ne finisse par accoucher d'une inculpation. Le milliardaire avait alors exulté devant le malheur de celui qu'il décrit comme l'une des pires personnes de ce pays. James Comey, l'un des grands adversaires de Donald Trump et le premier à faire les frais de sa vendetta, le président utilisant la justice qu'il conspue depuis des années pour s'attaquer à ses opposants. Mais inculpation ne signifie pas condamnation et le patron de la Maison-Blanche pourrait déchanter si Comey venait à être acquitté. Ses avocats travaillent déjà à une annulation du procès prévu début janvier.
Loïc Loury correspondant aux États-Unis. Donald Trump qui s'est trouvé aujourd'hui de nouvelles cibles. Le président américain appelle à emprisonner le maire de Chicago Brandon Johnson et le gouverneur de l'Illinois J.B. Pritzker. Il accuse les deux élus démocrates de ne pas protéger les agents de la police de l'ICE, la police de l'immigration. Donald Trump qui a ordonné le déploiement de la garde nationale à Chicago qui serait selon lui devenue une véritable zone de guerre. En Équateur, le président conservateur Daniel Noboa est sorti indemne hier d'une attaque contre son véhicule. Environ 500 personnes ont jeté des pierres et des bâtons sur le cortège présidentiel dans le sud du pays. En réalité, la tension est palpable partout en Équateur depuis plusieurs jours où les manifestations indigènes se multiplient, routes bloquées, militaires pris en otage. Il y a déjà un mort, des dizaines de blessés et de nombreuses arrestations. L'état d'urgence a été décrété dans 10 des 24 provinces du pays. Au cœur de la colère, Nathanaël Charbonnier, les prix des carburants et la fin d'une subvention sur le diesel.
Alors la suppression de cette subvention fait passer le prix du gallon de diesel de 1,80$ à 2,80$, ce qui met en colère la Confédération des nationalités indigènes de l'Équateur, c'est-à-dire la plus grande organisation des peuples autochtones du pays. Il faut se souvenir que la même mesure avait entraîné les mêmes réactions à deux reprises en 2019 et 2022. La hausse de 56% du prix du diesel représenterait un coup dur, estime la Confédération, pour l'économie des paysans, qui réclame également une baisse de la TVA de 15% à 12% et de l'allocation de budgets plus importants à l'éducation et à la santé publique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent que l'État compte récolter en supprimant sa subvention est destiné à financer la lutte contre le crime organisé et les trafiquants de drogue. Le président Daniel Noboa, réélu en 2025, parle d'une somme d'$1 milliard, mais l'argument ne semble pas efficace, notamment lorsque l'on sait que les dettes fiscales de l'entreprise familiale du président ont été quasiment effacés par le Parlement.
Nathanaël Charbonnier de la rédaction internationale de Radio France. En Allemagne, la police va désormais être autorisée à abattre les drones suspects, décision prise par le gouvernement du chancelier Friedrich Merz après plusieurs alertes aux drones dans le ciel européen et notamment justement en Allemagne, principal soutien militaire et financier de l'Ukraine. Les autorités dénoncent des tentatives d'intimidation et d'espionnage. Elles soupçonnent la Russie d'être responsable des incidents dans le cadre d'une véritable guerre hybride contre les Occidentaux. Sébastien Baer nous appelle de Berlin.
Pour le gouvernement de Friedrich Merz, la question était devenue prioritaire. Quelle parade contre les drones ? Ces derniers jours, les signalements se sont multipliés. D'abord au nord du pays, à la frontière danoise, ensuite à l'aéroport de Munich, paralysé 2 jours consécutifs. Les services de la navigation aérienne recensent depuis le début de l'année 172 incidents impliquant des drones. C'est 30% de plus qu'en 2024 sur la même période. Désormais, la police pourra abattre les appareils quand ils représentent une menace. Ultime recours, autorisé quand les lasers et le brouillage des signaux n'auront pas suffi à écarter le danger. Les policiers seront équipés des moyens appropriés, montant de la facture 100 millions d'euros minimum. Le ministre de l'Intérieur explique qu'il travaille en collaboration avec l'Ukraine et Israël, qui ont une plus grande expérience en la matière. Pour compléter ce dispositif, une structure baptisée Centre de défense anti-drone va voir le jour. Elle sera chargée de coordonner les actions de la police et des régions.
Sébastien Baer, correspondant à Berlin, l'Allemagne qui devrait retrouver le chemin de la croissance économique cette année. Après 2 ans de récession, le gouvernement allemand table sur une légère progression du PIB, le produit intérieur brut en 2025, plus 0,2%. C'est une victoire pour les défenseurs de l'appellation viande qui veulent en exclure les produits végétaux. Le Parlement européen a voté aujourd'hui en faveur de l'interdiction de termes comme steak, saucisse ou hamburger pour des produits non carnés. Question de transparence et de valorisation des métiers de l'élevage selon les partisans du texte adopté ce midi. À Strasbourg, au Parlement européen, les explications de Fabien Cazot.
Réserver la dénomination viande aux produits qui en contiennent vraiment, c'est notamment le combat de l'eurodéputée de droite, Céline Imar, elle-même agricultrice. Elle savoure sa victoire tout en assurant ne rien avoir contre les produits végétaux.
Il est inenvisageable de les interdire. C'est pas du tout le but de mon texte. Les gens sont libres de consommer du tofu, de la farine d'insectes, enfin ce qu'ils veulent. En revanche, je pense que ça ne peut pas s'appeler de la viande. Ça ne peut pas s'appeler une saucisse, un jambon ou une escalope. C'est pas transparent pour le consommateur, déjà, premièrement. Et ensuite, je pense qu'il faut valoriser le travail de nos éleveurs.
Car le texte adopté ce midi porte plus globalement sur le soutien aux revenus agricoles, en tentant notamment de rééquilibrer les relations commerciales avec la grande distribution. Pour l'écologiste David Corbeau, ce débat sur l'appellation viande est presque anecdotique.
Se concentrer sur ces questions de dénomination, je trouve ça absurde. C'est comme si on interdisait les fruits de mer d'appeler ça fruit de mer, parce qu'un fruit, c'est pas un coquillage. Enfin, c'est placer le combat à un mauvais niveau et à un niveau un peu idéologique. Le sujet, là, c'est le revenu agricole. Et donc, il faut arrêter les diversions et se concentrer sur l'essentiel. Le travail des paysans doit payer.
Le texte adopté aujourd'hui par le Parlement européen doit encore être approuvé par les États membres.
Fabien Cazot, depuis le Parlement européen, réuni cette semaine en session à Strasbourg. Le prix Nobel de chimie 2025 a été décerné aujourd'hui à 3 scientifiques, le japonais Suzumu Kitagawa, le britannique Richard Robson et l'américano-jordanien Omar Yagi. Ils ont été récompensés pour le développement des structures métallo-organiques selon le jury Nobel. Ces constructions peuvent être être utilisée pour récupérer l'eau de l'air du désert, capturer le dioxyde de carbone, stocker des gaz toxiques ou bien catalyser des réactions chimiques, explique le comité Nobel dans son communiqué. On termine ce journal avec la météo. Demain, un ciel le plus nuageux au nord de la Loire et sur la région Auvergne-Rhône-Alpes au sud du soleil, sauf près des Pyrénées où le temps sera gris et humide. Demain matin, il fera entre 8 et 14 degrés en général du nord au sud. L'après-midi, le thermomètre oscillera entre 17 et 24 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Martin Descloseaux. À la technique, il y avait Sofiane Actibe.